Ah, c'est ça l'enquête.
T'as vu, hein? C'est pas long, hein? Avec
Bravo, bravo.
Ça me stresse, là, t'as vu?
Ah oui!
Surtout que celui-là, il est franchement pas facile. Si, avec ce système-là, mais le problème, c'est que ça se décroche. Si, il part pas.
On se barre à chaque fois.
Voilà. Le problème, c'est que ce matin, on avait qui partait bien, mais il y en a qui ne peuvent pas. Là, tu vois, quand tu as le trophée, là, regardé à l'arbre, voilà. En fait, l'encoche, c'est génial. Tu n'as pas à planter ton crochet.
Travailler au cheval en forêt, c'est l'idéal. Ça nous semble être bien plus logique quand on parle de forêt, de vraie forêt, pas de plantation comme ici. Voilà, pour moi, ça, c'est pas une forêt, c'est une plantation aujourd'hui. Notre intervention, peut-être un jour, ça fera une forêt. Ça veut dire une forêt, plusieurs étages d'arbres, plusieurs variétés d'arbres, avec une sauvagerie aussi qui est là, etc. Pas une plantation, pas quelque chose de cultivé. Éventuellement, quelque chose de jardiné. Voilà. On vole un peu à la forêt parce qu'on en a besoin, mais on ne part pas dans une optique de production. Voilà. Nous, on pense comme ça. Et si on veut que la forêt soit, accueille beaucoup de gens, arrive à développer une dynamique qui est très large, avec une implication de beaucoup de gens, locaux surtout, on pense que la mécanisation ne permettra pas cette possibilité, quoi.
Entre cimes et racines, une série d'émissions réalisées par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Viabilité économique et respect de l'écosystème. Nous nous retrouvons le 6 novembre 2012 dans une forêt de sapins pectinés à Mazaguel, sur le versant nord de la Montagne Noire, dans le Tarn. Depuis plusieurs jours, une équipe de 7 bûcherons et débardeurs à cheval, ou plutôt débardeuses, car il s'agit de deux femmes, mène un chantier dans des conditions très difficiles, dues surtout à la forte pente. La majorité vient d'un collectif de paysans forestiers à Trénas en Ardèche. Il s'agit d'une coupe sélective qui fournira du bois de plaquette pour la chaufferie de l'abbaye en Calca, qui est également propriétaire de la forêt en question. L'ingénieur forestier responsable de ce chantier s'appelle Gaëtan Dubus. Il est aussi l'initiateur et le principal animateur du réseau pour les alternatives forestières, le RAF, créé en 2008. Le réseau a organisé une rencontre de 2 jours pendant la durée de ce chantier afin de se pencher sur une question essentielle. Comment respecter les écosystèmes forestiers ainsi que la santé physique et psychologique des sylviculteurs tout en respectant les souhaits et les contraintes du propriétaire qui doit payer leur travail. Ce matin, une trentaine de professionnels du secteur forestier local sont venus découvrir et commenter le travail mené par l'équipe à Mazaguel, ce qui a donné lieu à des échanges fort intéressants. Écoutons d'abord Gaëtan Dubus, ingénieur forestier et initiateur du réseau, qui donne des explications aux professionnels avant d'aller visiter le chantier.
Donc le thème, c'est viabilité des chantiers dans l'esprit de la charte. Voilà un chantier qui est tout à fait dans l'esprit de la charte. On va parler du coût, quoi, de ce chantier-là. Et ce que ça représente pour ceux qui le font, est-ce que c'est viable, est-ce que ça représente pour ceux qui payent le travail. Voilà. Et moi, je suis en gros entre les deux, quoi. Je convainc le propriétaire de payer ce travail-là. C'est pas toujours facile. Tous les forestiers locaux qui sont là savent que c'est pas des conditions de travail faciles. et ils pourront nous donner leur vision. Donc hier, on est déjà venu sur cette forêt-là. On a déjà un petit peu observé la situation, parlé avec les bûcherons, les débardeurs. Et ce qu'on souhaitait pour ce matin, c'était accueillir des professionnels de la région pour qu'ils nous donnent leur regard avec leur expérience souvent longue des pratiques de la région, des difficultés, de ce qui peut se faire et ne pas se faire. Et qu'on puisse dialoguer justement sur entre notre vision au réseau qui est parfois assez idéaliste et très très parfois poétique, mais il y a beaucoup de praticiens aussi dans ce réseau-là. Et puis des gens qui sont, on va dire, bien impliqués dans la filière et qui connaissent aussi les contraintes de ce métier-là. On y va ? Alors je donne des chiffres assez approximatifs parce que cette forêt a été achetée il y a à peine un mois. Ça fait 2 ans qu'on est en tractation, ils étaient très gourmands au niveau du prix. Moi, j'aurais expliqué de toutes les manières que c'était, il y avait du bois sur pied, mais que c'était une forêt très très difficile à travailler. La première raison, vous la voyez, hein, le seul accès, il est là. Et la deuxième raison, ben, voilà, on la voit aussi, c'est la pente. Donc on a entre 30 et 80% de pente, à certains endroits, presque 100%, on tient à peine debout. C'est une forêt sur le plat qui vaudrait 3 fois le prix qu'on l'a acheté, facilement. Et le chantier qu'on va aller voir là, c'est une première éclaircie en sapin pectiné. Donc sur la petite vingtaine d'hectares de sapin, qui depuis très très longtemps, il n'y a probablement eu jamais d'opération, n'ont pas été éclaircies. Donc vous allez voir, il y a une très très forte densité. Moi, ça me paraissait assez urgent d'intervenir. Parce que si on n'intervient pas, bien, à un certain moment, il y a de la mortalité, c'est dommage. La nature sélectionne pas forcément les plus beaux sujets. Et donc, même si la piste est dans l'état où elle est, et qu'à mon avis, il faudra l'améliorer, enfin, tout le monde sera d'accord, voilà, on démarre une première éclaircie. Enfin, moi, je suis assez satisfait du résultat. Vous allez voir, c'est plutôt joli ce qu'ils font. Donc, on va essayer de pas trop s'arrêter en bas pour commencer la visite en haut, pour voir la parcelle qu'ils ont finie. Et puis plus on avancera, plus on ira vers ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Alors, comment on a fait ici ? Comme c'est des gens qui connaissent bien la forêt, qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont des vrais sylviculteurs et qu'on se connaît depuis un moment, moi, j'allais pas marquer ça, quoi. Donc, c'est eux qui ont choisi les bois. Donc, au fur et à mesure, on s'est un peu mis d'accord au départ, dans nos désaccords, parce que chacun a sa sensibilité, forcément, et quand on passe, ah, moi, j'aurais enlevé celui-là, toi, t'as enlevé celui-là, bon... Donc c'est eux qui choisissent au fur et à mesure. C'est les bûcherons qui choisissent au fur et à mesure en discutant ensemble, en discutant avec le débardeur, avec le voilà.
Mais il y a un volume en gros prévu.
Ouais. Alors le contrat, il a été passé sur 300 mètres cubes. Pour deux raisons. D'abord parce que 300 mètres cubes, ça correspond au bois dont l'abbaye a besoin pour se chauffer chaque année. Sachant que ça fait à peu près 800 mètres cubes apparents de plaquettes et qui chauffe toute l'abbaye aux plaquettes, donc ça remplace 70 000 litres de fioul. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont monté il y a 3 ans et puis ça fonctionne. Donc ça, c'est la première raison. Et puis que faire déplacer toute une équipe, organiser tout le déplacement avec les bêtes, organiser l'accueil des bêtes qui est chez Jean-Luc et Florence, ils sont extrêmement bien accueillis. Il faut que ça vaille la peine, quoi. Ils vont pas venir pour 50 ou 100 mètres cubes.
Nous sommes donc enfin arrivés au fameux chantier. Et Lolo, bûcheron, scieur et charpentier de l'équipe de Trenas, vient à notre rencontre.
Nous, on n'est pas des professionnels en tant que tel au niveau du débardage forestier. On ne fait pas ça toute l'année. Avant tout, on est paysans. Le travail du bois a toujours été un plus sur notre ferme. On a une scierie, une menuiserie, de la charpente aussi. Et le travail forestier avec les chevaux, ça nous a toujours attirés. Et doucement, des gens nous ont demandé d'intervenir chez eux. Souvent des gens qui ont une vision plus écolo ou alors qui sont très amoureux de leurs parcelles et qui n'ont pas envie que les tracteurs abîment trop les parcelles. Parce voilà. Au départ, en forêt, nous, on travaillait avec des tracteurs. Donc on a un gros débardeur et des porteurs forestiers aussi. Et de plus en plus, on s'est axé vers le cheval parce que humainement, socialement, on s'y retrouve mieux. C'est un rythme qui nous convient mieux. C'est une finesse de travail qui nous ressemble plus. Voilà. Donc c'est, on prend vraiment du plaisir quand on bosse avec des animaux. En plus, on est obligé d'avoir un lien entre les bûcherons, les débardeurs, un lien fort, un lien... voilà, on travaille vraiment ensemble, c'est pas chacun qui fait son activité. Donc ça, c'est tout le côté social qui est vraiment... qui est obligatoire avec le cheval, voilà. Ça, c'est très intéressant. Et en plus, on essaye de promouvoir cette manière de travailler. Donc d'essayer de donner envie. Donc pour ça, on est toujours d'accord d'essayer de partager les moments où on passe en forêt. Partager avec des stagiaires, partager avec des gens comme vous qui ont envie de voir ce qui se passe, quoi. Travailler au cheval en forêt, c'est l'idéal. Ça nous semble être bien plus logique quand on parle de forêt, de vraie forêt, pas de plantation comme ici. Voilà, pour moi, ça, c'est pas une forêt, c'est une plantation aujourd'hui. Notre intervention, peut-être un jour, ça fera une forêt. Ça veut dire une forêt, plusieurs étages d'arbres, plusieurs variétés d'arbres, avec une sauvagerie aussi qui est là, etc. Pas une plantation, pas quelque chose de cultivé. Éventuellement, quelque chose de jardiné. Voilà. On vole un peu à la forêt parce qu'on en a besoin, mais on ne part pas dans une optique de production. Voilà. Nous, on pense comme ça. Et si on veut que la forêt soit accueille beaucoup de gens, arrive à développer une dynamique qui est très large, avec une implication de beaucoup de gens, locaux surtout, on pense que la mécanisation ne permettra pas cette possibilité, quoi. On pense que c'est grâce à l'animal qu'on pourra faire que les forêts... Donne à manger, entre guillemets, quoi, évidemment, donne à manger à une population locale, à des gens qui sont investis dans le pays. Voilà, c'est pas une démarche. Bon, je dis ça et en même temps, nous on fait des kilomètres pour pouvoir venir faire cette activité parce que localement, on n'a pas trouvé d'équipe qui pouvait faire l'activité qu'on a fait, quoi. Donc, on a envie de transmettre ce qu'on fait pour donner envie à des gens locaux l'envie de reprendre ce qu'on fait, quoi. Au début, l'idée, c'est d'avoir du petit bois pour faire de la plaquette. Et vu le massif, qui est quand même... c'est une monoculture, mais qui est régulière dans les diamètres et dans les hauteurs, ça nous a paru un peu con d'enlever que des petits. On aurait gardé une forêt que de gros bois, ce qui n'est pas forcément intéressant sur un travail sur le long terme, pour une forêt qui a toujours un peu de rendement. Donc, on est parti sur l'idée plutôt de faire un nettoyage, on va dire, un peu... Un peu en imaginant qu'il y aurait un ressemis et puis éventuellement le feuillu qui prendrait un peu de place. Et comme on a été surpris par le vent les premiers jours, on a préféré garder parfois des poquets. Alors des fois, on va avoir trois arbres à la suite qui sont assez proches. En théorie, on aurait pu en enlever un sur deux pour les libérer. Comme ici devant, là, on voit, il y a un petit carré serré. Mais on a fait ça dans le sens en imaginant que le vent aurait moins d'emprise sur le petit poquet, voilà, que sur un arbre seul. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a fait comme ça. Après, ici, on a un gros trou, par exemple, parce qu'il y avait un arbre qui était un gros arbre fourchu qui, bon, bah, à un moment donné, le choix du gars qui a coupé, ça a été de l'enlever, puisqu'il était un arbre moche. Bon, on verra le résultat. Il y a un petit poquet de châtaignier qui espérons-le, se ressèmera dans le trou. Après, on a préféré vraiment enlever... on a peut-être enlevé un quart des pieds sur le massif, là. Donc, un arbre sur quatre, c'est vraiment pas beaucoup, surtout que c'est rarement les plus gros qu'on a enlevés. Donc c'est vrai, quand on voit, ça reste quand même épais, ça reste dru, ça reste une forêt, quoi. C'est pas une éclaircie de plantation, ça va peut-être se transformer en une vraie forêt, ce truc-là. Ouais. Nous, on l'imagine comme ça. Alors évidemment, ça contredit un peu le contrat de départ, qui était d'enlever que des petits bois pour la plaquette. Et nous, notre démarche de travail, on essaie de s'impliquer dans le massif, même si peut-être on n'y reviendra jamais, mais d'enlever que du petit bois, ça nous paraissait saugrenu, pour être poli. Et on a préféré prendre du bois, il y a un peu toutes sortes de diamètres. Il y en a à scier, il y en a à plaquer, il y en a peut-être pour autre chose, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est une intervention sur tous les bois ensemble, et pas seulement sur une recherche d'un produit, quoi. Voilà. C'est une vision globale du truc. C'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Après, c'est un débat, quoi. C'est notre manière de faire. Évidemment, on pourrait se plier à un contrat écrit, ce qui n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est on s'investit dans le lieu pour essayer de, voilà, que ça aille dans un sens qui nous convient, quoi. Donc ça, c'est un débat ouvert avec les gens, avec les proprios, avec les autres intervenants. Voilà. Nous, on mise aussi sur l'ambiance chaleureuse d'un chantier. Une bande de potes qui font un truc, voilà, c'est pas là à casser du bois comme des bourrins, hein, quoi.
Ouais, c'est un discours moins connu dans la profession, je pense.
Il est payant. Putain, il y en a qui tombent, les gars. Bravo, bravo.
Les proprios, ce qui les intéresse, c'est de garantir l'approvisionnement en bois de leur chaufferie en équilibrant les coûts et les recettes. C'est-à-dire, c'est facile, quoi.
Logique.
C'est facile à décréter, c'est plus difficile à réaliser. Voilà. Mais ce qu'ils demandent sur un chantier comme ça, c'est clair, c'est qu'en restant dans le prix de la plaquette, j'arrive à équilibrer que le coût de revient du chantier ne soit pas plus cher que le prix de la plaquette. Donc ça veut dire sélection, abattage, débardage, reprise, broyage, tout ça doit rentrer dans le prix de la plaquette actuellement sur le marché.
Mais le propriétaire, il a deux intérêts. Il a l'intérêt pour cette plaquette pour chauffer, mais il a quand même acheté une forêt. Et cette forêt-là, ils ont envie que ça développe d'une certaine manière.
Alors, ça fait 6 ans que je travaille avec eux. La vision à long terme, elle est claire. Et ça, on est pleinement d'accord avec eux. Ils sont d'accord avec moi qu'on fait pas de coupe rase, qu'on va vers la futaie jardinée, qu'on va vers le mélange, qu'on garde une forêt pérenne et on fait pas de trous. Enfin, tout ça, ils sont complètement d'accord. Il y a aucun souci. Donc, jamais il a été question ici de pratiquer une coupe rase pour récolter le bois, pour rembourser l'achat de la forêt, quoi. Il y a aucun débat là-dessus. Alors que, franchement, des acheteurs le feraient, c'est facile. On récupère la valeur et on recommence ailleurs, quoi.
Mais a priori, tu pourrais dire qu'il y a une telle ou telle valeur qu'il faudrait donner à ça. Le travail d'éclaircie, d'amélioration de la forêt. Donc, est-ce qu'on peut vraiment seulement compter la question de plaquettes dans le calcul?
Ben, à court terme, c'est de ça qu'on va discuter. Tu vois, après la question est, est-ce que s'il y a un surcoût, si le coût du travail, toutes les opérations que j'ai données tout à l'heure amènent à un prix de revient de la plaquette plus élevé que le marché, moi je pense qu'on peut leur expliquer pourquoi. Je pense qu'ils accepteront. Mais si ça se reproduit comme ça pendant 10 ans, le bilan négatif, à un moment donné, ils vont pas l'accepter parce qu'il y a un problème de trésorerie, d'amortissement de la chaudière, etc. Moi, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout et du calcul du coût, comme tu disais tout à l'heure. Donc, parce que comme le thème des 2 jours, là, c'est la viabilité, faut qu'on voit qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui va pas sur la viabilité. Ici, c'est un chantier qu'on a... Donc, ils ont fait un devis. Moi, j'ai dit, là, on n'y arrivera pas, etc. On s'est ajusté pour arriver à un point d'équilibre où, en gros, pour 300 mètres cubes, on est à 14 000 euros hors taxe. Donc, ça fait 47... Waouh! Ça fait 47 euros le mètre cube. Donc au départ, il était prévu qu'on amène tout en 6 mètres, en billon, en bas à la chaufferie. Et ça faisait partie du devis. Sachant que la piste est grasse, qu'on a eu beaucoup de mal au départ avec le camion, etc., on a abandonné cette idée-là. Moi, je pense qu'il faut admettre la réalité. Il y a un poste de travail en plus ici en bas qui n'était pas prévu et qui, quelque part, compense le travail du camion. Donc, si les moines, les frères acceptent ça, on va se retrouver à 47 euros avec le bois rangé en bas. Voilà, quand même. Et moi, je leur ai dit qu'il y avait 2 euros de marquage qu'ils économisaient, que moi, je ne facturerais pas de maîtrise d'œuvre là-dessus. Donc, 47 euros moins 2 euros, ça fait 45 euros. Voilà. Si on parle d'équilibre, ça veut dire qu'il faut vendre le bois tel qu'il est, 45 euros, ou... que si je rajoute le broyage à ça, donc le transport en bas et le broyage, la somme de ces deux coûts-là devrait rentrer... il faut voir à combien nous revient la plaquette. Si on parvient à partant sec à faire venir le camion jusqu'ici, il y aura 6 euros le mètre cube à descendre. Et s'il faut faire une reprise, ça va nous coûter 12 euros, voilà, à peu près. Il va, en gros, le bois, il va arriver en bas à 55 euros, sachant que 55 euros dans 1 mètre cube. Avec 1 mètre cube, on fait entre 2 et 2,5 de plaquettes. Donc, ça fait 20 euros. À ça, il faut rajouter 8 euros de broyage. On arrive à peu près au prix de la plaquette. Voilà. Donc, 30 euros le marché. Aujourd'hui, c'est ça, à peu près.
Pour ceux qui sont été dans des écoles forestières, on nous a quand même tous appris que les premières éclaircies étaient déficitaires. Bon, ça, il faut jamais l'oublier, quand même. Bon, ensuite, je pense qu'il faut plutôt voir ici le principe comme une opération sylvicole qu'une opération financière. Attention. Maintenant, je rejoins quand même tout à fait. Je rejoins en tant qu'acheteur de bois et tout, je rejoins quand même les inquiétudes de certains sur effectivement le bilan financier qui quand même de toute façon a un impact quoi qu'on en dise et surtout moi je vous félicite hein, parce que les propriétaires comme vous j'aimerais bien en avoir rencontré tous les jours. Et j'espère que nous aurons la possibilité d'en avoir d'autres parce que si on est ici et qu'on parle de tout ça aujourd'hui, c'est lui qu'il faut applaudir hein. Enfin lui et l'abbaye, mais enfin je veux dire c'est le propriétaire c'est lui qui va accepter plutôt que de rentrer du bois rendu à l'abbaye à un certain prix pour le bien-être de sa forêt et d'une certaine gestion particulière, va accepter de perdre les sous quand même.
Ces réflexions viennent de Thierry Calvel de la Syrie Vieux, l'un des professionnels de la filière bois locale invité à cet échange.
Nous, on est souvent confrontés à ces genres de massifs avec les propriétaires où il y a où nous on n'est pas d'accord sur le fait d'enlever que par exemple le but là initial c'est de prendre des perches pour le broyage. Nous ça nous semblait con comme intervention, voilà, on voulait que la forêt ait une autre gueule. Donc l'intervenant, je pense qu'il faut qu'il s'habitue aussi à être dans le débat. C'est pas une question de conflit de dire alors c'est comme ça, c'est un débat avec les proprios, les conseillers, les techniciens, avec tout le monde. Là on a un résultat qui nous convient, on n'était pas d'accord de faire comme c'était sur le contrat. Donc on discute et...
Ils ont signé, mais ils n'étaient pas d'accord.
Ça va pas, quoi. C'est normal, en fait. Je pense que l'intervenant, c'est quand même celui qui voit vraiment ce qui se passe dans la forêt. Le gars qui coupe, celui qui débarde, mais il voit le résultat. Quand il fout une grosse merde, il le voit. Quand il fait un truc qui lui plaît bien, il le voit. Et c'est quand même lui qui a le plus de capacité, à mon avis, à dire si ce qui est bien à faire ou pas, quoi. Quand tu marques des arbres, parce que j'ai aussi marqué des arbres parfois, parce que les équipes ne voulaient pas le faire, choisir les bois, mais des fois, mais t'es là, mais tu ne sais pas, tu marques au pif, quoi. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir un résultat. T'embaines un, tu pètes la tête, ça change tout ton carré sur 100 mètres carrés, quoi.
Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là. Celui qui marque devrait couper au fur et à mesure. Et c'est... Donc il ne marque pas. Et c'est comme ça que c'est en ouvrant au fur et à mesure, bon, surtout dans des peuplements comme ça, dans des peuplements peut-être plus âgé, différent, le raisonnement est peut-être plus faux. Mais dans des peuplements comme ici, c'est au fur et à mesure qu'on enlève des sujets qu'on voit ce qu'il y a à faire. Hein. Ça, c'est clair. Depuis le début de l'année, j'ai des propriétaires qui m'en parlent. Je suis assez réceptif, donc je ne suis pas contre, pourquoi pas, dans des chantiers, j'ai toujours dit, quand même, bien particuliers. Mais là, financièrement, malheureusement, je ne suis pas sûr d'être entendu.
Sur une forêt comme ça, le boulot qu'on fait là, c'est un réel investissement. C'est un réel... ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est un investissement pour ce massif. Peut-être qu'ils n'en auront pas les billes, les moines, parce que le temps passera et le temps qu'il y ait des beaux... C'est pas grave, il y aura d'autres moines.
Si tu n'as pas ce raisonnement, tu ne travailles pas en forêt. Si tu n'as pas un raisonnement de long terme...
Si un jour, tu achètes une baraque un peu en ruine, ça ne te paraît pas saugrenu de foutre 500 000 euros dans une baraque pour la retaper, alors que c'est qu'un tas de cailloux. Quoi. Et une forêt, ça paraît saugrenu qu'il n'y ait pas d'investissement à mettre dedans.
L'investissement dans les plantations, c'est plus facile à accepter que dans un truc comme ça. C'est curieux. C'est parce qu'on dit qu'il y a une valeur sur pied, donc tu vois.
Il y a pour moi, il faut dire aux gens, mais écoute, toi, t'achètes une bagnole déglinguée, tu es d'accord de foutre encore 5000 euros pour la réparer. C'est un investissement parce que tu considères que tu en as besoin et tout. Tu as une forêt, il faut mettre 5000 euros de plus, tu n'es pas d'accord parce que c'est au-delà de l'opération blanche. C'est anormal.
Des choses à long terme. Si c'est temporaire, il n'y a pas de problème. Si, en fait, cette opération blanche, elle n'arrive jamais, c'est ça qui. Moi, il faut.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire jamais? C'est dans 50 ans ou dans 10 ans?
La vie d'un homme, la prochaine coupe sera peut-être équilibrée. La suivante.
On peut pas discuter sur la vie d'un homme, sur le temps de la vie d'un homme. Sur une forêt. À part des forêts superbes. Par exemple, chez nous, on a des forêts, effectivement, tu peux parler économie, quoi. Les arbres, ils font tous 3 mètres cubes, bon, évidemment, mais là, c'est encore trop jeune. En plus, les arbres ont même pas 50 ans. Donc, t'as pas une qualité technique encore performante. C'est pas du bois qu'il faut mettre pour l'épreuve. Donc, il faut accepter qu'il n'y ait pas forcément une opération blanche. Et ça, c'est une discussion avec les gens. Et c'est pour ça que de toujours mettre le prix de la plaquette du marché et correspondre à ça et tout ça, c'est des conneries, ça. Ça fausse complètement le truc. Parce que tes plaquettes, il y en a qui viennent de Roumanie, quoi. Je veux dire, et on compte ni gasoil, ni les pauvres gars qui se font exploiter, tout ça. C'est de la merde, tout ça. Moi, je pense que c'est des comptes. Il faut pas tout foutre un coup de pied dedans, mais il faut arriver à être souple aussi, à dire, bon, là, c'est un investissement humain, c'est un investissement financier aussi. C'est en discutant qu'on fait accepter ça aux gens pour qu'ils comprennent la démarche. Mais c'est pas un fait qu'une forêt doit faire au minimum l'opération blanche. Tu peux pas avoir qu'une récolte pour un but précis. Voilà. À part si c'est 5-6 arbres. Mais sur un truc comme ça, tu as 300 cubes de plaquettes, ça fait quand même beaucoup de bois. Et donc, tu peux pas récolter que cette essence-là.
Moi, de toute façon, j'ai pas envie qu'on parte de la récolte. J'ai envie qu'on parte de la forêt et qu'on se pose la question vers quoi elle veut évoluer. Et on prélève les arbres en fonction de cette image qu'on a de l'évolution de la forêt.
Dans ce cas-là, moi, j'imaginerais ces massifs qui est encore trop en monoculture, bien que le châtaignier ait un peu repris dedans. Et il faudra peut-être même imaginer, pourquoi pas, un semis de hêtre ou quelque chose pour la chambouler un peu, parce que c'est trop, il y a trop de sapins. Donc faire quelque chose. Mais en tout cas, aller vraiment dans le sens de pas faire disparaître le sapin, même s'il a été importé, mais de favoriser la réintégration des bois locaux dans ce massif-là. Donc ça va être délicat. Il faut le faire délicatement et c'est sur des années, quoi. Mais à mon avis, c'est jouable parce qu'elle a l'air costaud. Quoi. On est des grands humanistes et en fait ce qu'on a fait là, on a pris tous les frais de chacun, on a fait un paquet, on a enlevé ça du pseudo revenu qu'on aurait de cette exploitation et le reste on a divisé par tête de pipe, quoi. Voilà. Donc en gros on a tous le même revenu et ceux qui ont eu, par exemple Gérald a eu 1200 euros de camion pour l'amener ici, qui ne sert à rien parce que ça patine. Bon, on les a englobés dans les frais, et voilà, c'est pas de sa faute, c'est pas de notre faute, on s'en fout, quoi. Nous, on a fait des gros chantiers de très gros bois, où au début du chantier, vu qu'il y avait, parce qu'il y a deux apprentis, là, qui font quand même moins de boulot que les autres, mais c'est pareil, quoi, c'est pas la peine de les... c'est pas parce qu'ils sont, ils apprennent qu'il faut les rabaisser. Donc, sur du gros bois, comme ça, au début, on a voulu faire le cubage de chacun, parce qu'on était trois entreprises à couper et deux à débarder, alors il y avait du bordel. Au bout de deux jours, ça fait une inégalité dans le collectif, quoi... Ça va pas, quoi. Donc ça met une tension, ça crée et tout ça, nous, c'est tout ce qu'on rejette, quoi. Le truc où c'est la une sorte de valeur dans le travail, tout ça, c'est inacceptable, quoi. Voilà. On veut inventer autre chose, on veut vivre autre chose. Donc on partage ce qui reste et puis basta, quoi. Voilà. Et parfois, c'est arrivé que des membres de l'équipe soient vraiment en galère financière. Ils ont pris le pactole et puis on verra le prochain coup. Voilà.
Un chantier comme ça, donc Monsieur Lacroux, si vous le preniez. Je vous demande pas un devis, mais savoir.
Je réfléchirai avant comme il faut, avant de le prendre. Je réfléchirai. Enfin, on en fait de temps en temps de la pente. Hein. Enfin, non, il faut quand même. C'est pas facile, hein. Il faut le reconnaître. Hein. Il est pas facile le chantier.
Vous travaillez plus sur du plat, normalement.
On en fait de la pente.
Mais pas forcément aussi sélectif que ça.
C'est différent, oui. Papa,
pour avoir la qualité que tu as eue ici, je pense que tu peux dire merci à ton entrepreneur ou à tes entrepreneurs.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le prix que ce travail vaut, 45 euros.
Je ne sais pas, je te dis que je suis aujourd'hui dans le... Je découvre, c'est la découverte pour moi. Mais il est clair que de toute façon, quelque chose, tu aurais fait quelque chose au skieur, ça t'aurait coûté un certain prix. Je pense que tu aurais pu, ça aurait peut-être coûté moins cher, effectivement. Moi, je pense qu'avec 35 euros, non, Jeannot, qu'est-ce que tu as dit ? Avec 35 euros, ça pouvait se faire. Voilà. Mais tu n'aurais pas eu. On serait été obligé de travailler quand même plus ou moins avec un peu de cloisonnement, avec quelque part. Je veux dire,
On est obligé de faire des cloisonnements, là, un peu. On ne peut pas faire autrement. Hein.
Nous venons d'entendre Thierry Calvel de la scierie Vieux et Monsieur Le Courx, exploitant forestier à Castres. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne sont pas des professionnels de la forêt, un skidaire est un gros tracteur forestier. Lorsqu'on évoque le cloisonnement, cela veut dire que l'on doit prévoir des bandes régulières ou des couloirs de 4 à 5 mètres de large qui sont entièrement rasés afin de permettre le passage d'une machine ou d'un câble de treuil afin de pouvoir sortir le bois. Écoutons maintenant Sven Augier, expert forestier et membre du réseau ProSylva qui prône une sylviculture proche de la nature qui assure la pérennité de la forêt.
Une première réflexion à apporter, on me dit oui, ça coûte plus cher en main-d'œuvre par rapport à de l'exploitation classique moderne, mais le terrain étant difficile, pour faire rentrer des grosses machines modernes, il aurait fallu faire des pistes, de l'investissement en voirie et en accessibilité, et que donc il faut commencer par mettre en balance. Ça me coûte plus cher théoriquement à l'heure ou au mètre cube sur cette méthode traction animale, mais il faut le comparer avec ce que j'aurais dû apporter en investissement initial pour rendre le chantier accessible à un chantier classique abatteuse et porteur. Première chose à évaluer, c'est qu'il faut comparer. On fait pas un choix uniquement pour des raisons idéalistes. On fait des choix qui sont souvent à cause d'un raisonnement économique. Et c'est probablement un des éléments forts de cette méthode, c'est de pouvoir travailler dans des zones où la méthode moderne gros matériel a de gros handicaps.
Écoutons encore Gaëtan Dubus qui évoque sa relation avec l'équipe de bûcherons et de débardeurs.
Il y a deux choses vraiment fondamentales que j'ai envie de dire. C'est la première, moi je pense que le résultat n'a rien à voir. On rentrera dedans, enfin franchement avec une exploitation mécanisée, c'est possible dans des pentes comme ça, mais ça ne donnerait pas le même résultat. C'est une première chose. Donc la plus-value, elle est d'abord là. Et la deuxième chose, comme il dit, c'est l'équilibre. Et ça, c'est vraiment une question permanente. J'en discute énormément avec eux parce qu'ils ont vraiment leur point de vue là-dessus. C'est pas des exécutants, quoi. Hein, c'est des sylviculteurs. Hein, c'est vraiment important. Et ils ont vraiment leur point de vue sur cette forêt qu'ils aiment bien, quoi. Et donc, la grosse question, c'est jusqu'où on va dans l'investissement sur les pistes et les routes. Et c'est un débat permanent, quoi. Alors, est-ce qu'on en reste là, leur point de vue, par exemple ? Leur point de vue, c'est de dire, on la laisse comme ça, la forêt. On fait pas d'investissement. D'accord ? On travaille comme c'est. Voilà. C'est leur point de vue. Moi, je leur dis, là, c'est quand même dur, quoi. On peut améliorer les choses, quoi. Qu'est-ce que ça apporte de plus, ce travail-là ? Alors, économiquement, le chiffrer, ça paraît évident si tu veux que faire moins de plaies. Alors, ne pas faire de cloisonnement, ne pas casser une ligne sur cinq, ne faire beaucoup moins de plaies au pied des arbres, faire moins de traces au sol, tu vois ? Tout ça, ça a une valeur pour la forêt. Mais je ne peux pas leur démontrer qu'en faisant ça, il va y avoir moins de mortalité sur les arbres. Tu vois, c'est extrêmement difficile à quantifier, quoi. Ici, ce qu'on compare, c'est un débardage mécanisé avec un débardage au cheval. Tu vois, c'est ça qu'on compare. Parce que la coupe rase, il n'en est pas question. Et on compare le coût de ces deux opérations-là. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, de mettre un tracteur là-haut avec un treuil. Hein, et puis on sera obligé de descendre un petit peu parce qu'il y a quand même 140 mètres je crois et de tout remonter le bois en faisant forcément des cloisonnements pour sortir le bois pas n'importe où, pas n'importe comment. Donc Il y aura plus de plaies, il y aura plus de dégâts au sol, probablement. Et puis, moi, je crois que l'abattage sera fait moins soigneusement parce que ça ne sera pas la même équipe.
Le cheval, il peut permettre, par exemple, de faire moins de pistes, moins de pistes d'accès. Oui. Au début, on réfléchissait ici, il y aurait une piste au milieu, ça serait sympa, tout ça. Après, on regarde, on dit, bon, on intervient à bout de 50 ans que ça existe, le massif. Est-ce que ça justifie de faire une piste parce que tu passes tous les 50 ou tous les 10 ans, ça se discute quand même. Donc c'est avec 3-4 sous de puce, tu arrives avec le cheval, amène le bois jusqu'en bas. Donc c'est une bonne solution de ne pas tout éventrer à chaque fois systématiquement. Et en plus, il y a cette calcul complètement faussé avec les subventions.
Absolument.
Parce qu'une piste, quel est le prix d'une piste qui est subventionnée à 70 voire 90%? On n'est pas d'accord.
Moi, j'ai pas cherché de subvention du tout. Peut-être qu'éventuellement, mais voilà, pour le cheval, ça n'existe pas. Pour la tronçonneuse, ça n'existe pas. C'est plus ces gros.
Pour le câble mât, oui. Et ça se termine. Et pour le cheval, il n'y en a jamais eu.
Pour la batteuse, non, il n'y a pas.
Non.
Pour la batteuse, c'est ça le signe.
Pour la chaîne batteuse, oui.
C'est quand même impressionnant. C'est vrai qu'une abatteuse à 200-300 000 euros, c'est quand même plus intéressant qu'un cheval à 4 000 euros.
Ça veut dire deux choses. Moi, déjà, ça confirme l'idée que j'avais sur la comparaison entre les deux scénarios, entre le mécanisé et le cheval, puisque, évidemment, on en a pas mal parlé avec l'abbaye, hein, on a parlé du propriétaire tout à l'heure. Moi, j'aurais dit c'est à peu près 40% de plus. On est vraiment là-dedans, et j'ai expliqué pourquoi c'était 40% de plus, pourquoi moi, ça valait la peine, et puis ils ont dit, bon, on y va. Donc, on tombe exactement sur ce pourcentage-là. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la subvention. Ça serait dommage quand même qu'on ne puisse faire ce genre d'opération qu'à condition qu'il y ait des subventions. Et c'est quand même curieux aussi que les subventions, on les donne à la mécanisation et pas à du travail comme ça. Parce que ça fausse effectivement le calcul. Si on dit qu'on est entre 30 et 35 euros à abattage-débardage dans un schéma classique ici, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des subventions. Voilà. Alors, c'est quand même incroyable.
Je voulais qu'on sorte un petit peu du débat entre la forêt idéale, irrégulière, mélangée, multispécifique. On est nombreux ici à être convaincus que c'est un support de vie qui est le plus riche. On va rajouter ici qu'il est cependant important de se rappeler que l'intervenant n'est pas toujours maître des choix de gestion, parce qu'il y a un propriétaire, et que nous sommes ici nombreux à être soumis aux choix du propriétaire. On leur explique qu'on pourrait aller dans telle ou telle direction, que ça serait mieux, que c'est mieux pour l'avenir, ou que c'est plus stable, etc. Et là, on est intrinsèquement d'accord. C'était juste pour vous sortir un petit peu du débat. Moi, la forêt, je la vois comme ça. On est plusieurs à avoir un idéal un petit peu de ce type-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la qualité de votre travail dans des forêts qui sont aussi des forêts où il y a un propriétaire, qui a des objectifs, ne serait-ce que de payer ses impôts pour conserver son bien. Donc on ne peut pas complètement oublier l'argent. Il est toujours là présent. Il faut aussi être par moment un petit peu réaliste. Mais ce qu'on observe ici dans le débat, il était très intéressant entre les directives initiales et votre regard sur la forêt pour effectivement sortir du système carré. Mais je pense qu'ici, on va lever le bras. Qui est pour la coupe rase dans tous les système.
Bon, ben voilà. Venons-en maintenant aux commentaires de deux membres de ProSylva, Sven Augier, expert forestier au nord de Toulouse, et Gilles Thierle, correspondant de ProSylva pour la région sud-ouest.
Avant de parler de viabilité, on sait qu'ici, il y a un choix du gestionnaire et du propriétaire sur le type de travail qui souhaitait être fait, en respectant le plus possible l'intégrité du peuplement. Effectivement, l'attraction animale ici nous montre qu'il y a un très très faible impact sur les bois restants, donc il n'y a pas de blessure de débardage, ça c'est un point très positif. Et deuxièmement, on a vu que c'est une équipe d'intervenants qui travaille en combiné, donc les débardeurs plus les bûcherons, qui ont la capacité de faire eux-mêmes la sélection et le choix des bois à abattre, et ce qui apporte aussi une qualité remarquable au résultat final. Nous savons, d'après ce qu'on nous dit, que le bilan économique de l'opération sera légèrement négatif par rapport à la vente des bois, mais le propriétaire récupère une partie en bois énergie pour chauffer ses bâtiments. C'est une communauté religieuse, et donc ça, c'est un facteur important. Et ce qu'il en ressort aussi, c'est que ce léger bilan négatif, entre guillemets, est en fait un investissement sur la qualité future de la forêt qui est en train d'être soignée et gérée.
Ce qui est difficile à calculer, j'imagine.
C'est plus un constat posteriori qu'un calcul préalable.
De ce côté-là, il y a une association cousine de ProSylva qui s'appelle l'association Fuite Irrégulière qui travaille depuis 20 ans maintenant à la mise en place de dispositifs d'analyse totale, globale, on va dire, de sylviculture dite irrégulière ou de sylviculture d'arbres sur des peuplements très divers, une centaine en France et dans l'Europe, Angleterre, Luxembourg, etc. Et donc, qui commence à tirer des conclusions en contrôlant tous les 5 ans sur la façon dont on a prélevé de la matière, exporté donc de la matière et de l'argent, dont on a fait entrer du temps de travail en amélioration, en soins ou en récolte, enfin tout ce qu'on a, tous les intrants comme en agriculture, et comment la nature nous a laissé à disposition, donc une analyse patrimoniale, tout ce qui reste de 5 ans en 5 ans. Les résultats sont intéressants parce qu'ils montrent que, globalement, on est loin d'avoir des résultats médiocres qu'on pouvait dire, vous êtes des poètes, vous ne pensez pas à la productivité de la forêt, mais si on augmente la qualité de la valeur marchande de l'usine, déjà, tout en ayant fait que l'usine produise quelque chose, globalement, normalement, on assure une pérennité. Or, pour la forêt, c'est la pérennité qui compte, quoi. Donc, on commence à avoir des éléments chiffrés. Ils sont longs à obtenir. Mais par contre, ils seront probablement plus fiables que tous les calculs économiques qui sont faits par rapport à une opération d'artificialisation d'un milieu par plantation avec une idée de récolte à 40, 50 ans ou 60 ans, etc. Et des calculs qui sont tous perturbés par les cours du marché mondial, par les tempêtes, par les insectes, par la sécheresse et qui, en fait, ne valent que sur le papier quand on a convaincu le propriétaire numéro 1, celui qui va mettre le chèque en plus de la subvention.
Certains disent que des experts disent que en fait il y a des propriétaires qui seraient ouverts à ce genre de gestion peut-être, ou en tout cas qui sont assez amoureux de la forêt, etc. Mais peut-être là où c'est le plus grand problème, c'est plutôt de trouver des équipes qui sont capables de travailler comme ça, qui ont cette approche à un travail dans la forêt et donc en question de formation, parce que enfin les écoles de formation de forêt, ils sont pas vraiment axés sur, beaucoup c'est sur le machinisme, non?
Ça dépend. Bon, ici, on est dans un cas de figure particulier, celui de la traction animale. Mais nous connaissons des équipes d'exploitants forestiers qui ont eu une formation technique en sylviculture suffisante et qui sont capables de faire un travail raisonné, pas seulement de la force de travail et de l'abattage. Souvent, on travaille en collaboration avec eux lorsqu'on les connaît et ça permet effectivement de faire un travail plus fin, plus délicat. C'est vrai que là, il y a eu un très fort développement de ce que j'appellerais la liniculture, hein, c'est un petit peu ce dont parlait mon ami Gilles il y a un instant au même micro, où on fait de la production de bois de façon très régulière et très cadrée, mais nous avons quand même des personnes, et dans les écoles, dans les centres de formation d'ouvriers forestiers ou de bûcheronnage, il y a quand même des personnes qui sortent avec la capacité de raisonner. Et effectivement, lorsque le propriétaire a une certaine sensibilité et si, en accord avec son gestionnaire, il veut chercher des alternatives au schéma très régulier, on trouve le personnel, évidemment. Ça semble coûter plus cher, mais quand on investit de la matière grise en forêt, c'est toujours un investissement pour la qualité future et la stabilité de la forêt.
Moi, j'ajoute que on est dans une dualité. On dit aux gens qui ont une forêt, à une époque c'était même sur des flammes d'oblitération, la fête de la forêt, plantée, la fortune vient en dormant. C'est pas le cas, même si on met beaucoup de subventions, on s'en rend compte au hasard des 50 ans depuis les, ou 60 ans depuis les premières plantations. Et maintenant, il y a dans la société, il y a aussi des réflexions alternatives. Les bûcherons, ils ne gagnent pas leur vie. Ceux qui sont installés bûcherons il y a 30 ans, ils se sont tués le dos, au minimum, mais enfin, ils ont rarement fait fortune. Les gens qui ont envie de travailler en forêt, il y en a. Ils se forment différemment. Ils ont la capacité de bûcheronnage que je n'ai pas, ils l'ont. Mais ils apprennent plus, ils passent plus de temps à apprendre à être autre chose que des casseurs de bois. et à raisonner par rapport à la forêt. Il y en a un peu partout. Il y a une nouvelle race d'experts, c'est pour faire de la peine à Sven, qui sont des techniciens forestiers, qui sont aussi quelquefois des bûcherons, qui apportent du conseil, qui s'installent un peu partout, pas beaucoup. Ah, ils ont pas, comme ils ont droit à aucune subvention du tout, ils sont pas connus. Ils margent pas à une chambre des notaires ou à quoi que ce soit, ou des géomètres experts, ou des archis, ou bien des experts forestiers. Mais ils existent un peu partout et ils sont aptes à offrir des panoplies de solutions qui soient pas exclusives pour Sylva, mais qui puissent répondre aux soucis du propriétaire. Parce que n'oublions pas que c'est d'abord le propriétaire qu'il faut convaincre de faire quelque chose et quelque chose de bien dans sa forêt.
Sur le fait de pouvoir réaliser ça, il y a au moins deux trucs. Il y a le propriétaire, est-ce qu'il veut ? Bon, pour ça, il y a le conseiller quoi, forestier qui peut être convaincu ou pas que c'est possible. Donc déjà, les journées comme ça, ça participe à former les propriétaires. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le cas où le propriétaire est partant, le conseiller aussi, mais il n'y a pas l'équipe sur place, quoi. Donc c'est tout l'intérêt aussi de ton discours de départ. C'est de dire, parce que moi, en tant que conseiller, parfois, j'ai un propriétaire qui, même avant que je lui en parle, lui me demande ce type d'intervention. Et je lui dis, moi, je pense que chez vous, ça serait techniquement possible, économiquement aussi, mais certains n'ont même plus l'intérêt économique, parce que c'est vrai que, tout à l'heure, tu disais, c'est pour faire vivre quelqu'un de sa forêt, mais c'est vrai que pour certains, c'est pas l'objectif. Donc on a même des gens qui peuvent se permettre de pas avoir cet objectif-là. Mais si on n'a pas l'équipe sur place, clairement, on est démunis, quoi. Que ce soit en débardage traction animale ou même parfois un petit tracteur, hein, parce que c'est vrai que parfois le tracteur sur des pentes moins marquées pourrait apporter presque ce qu'apporte le cheval, quoi. Alors niveau machine, on reste dans une machine, mais bon, c'est quand même moins présent, je dirais, que des grosses machines.
Mathieu disait souvent on n'a pas l'équipe sur place. Alors, enfin, si on n'a pas l'équipe sur place aujourd'hui, s'il y a peu de débardeurs professionnels en France, c'est parce que les prix qu'on offre aux débardeurs ne sont pas en relation avec la qualité du travail et ne leur permet pas de vivre, en fait. Donc, parce que il n'y a rien à faire, c'est un travail qui coûte plus cher que la situation mécanisée. Oui, moi je peux vous donner les prix. Le but c'est de parler ouvertement du voilà. Ici on arrive à peu près, sélection, abattage et branchage, etc. et débardage et empilage en bas, on arrive à 45 euros le mètre cube.
C'est pas assez.
C'est-à-dire que
Si on veut être dans une vraie.
Mais je pense que c'est parce que c'est le premier chantier. Tu as dit, on continue dans ces peuplements, on les connaîtra, on s'en sortira bien à ce prix-là.
Voilà. Hier soir on a vraiment compté comme il faut. Et on est arrivé sur un résultat de s'il y avait Florent, quoi. On serait à 300 euros par tête de pipe, par jour, et c'est pas assez, quoi. Voilà. Et ça...
300 euros par jour, c'est pas assez.
Non, parce que...
C'est la moyenne entre les bûcherons et les débardeurs, mais là, je pense que...
Quand on fait du gros bois dans le Douglas, on est à 300 euros par jour, parce qu'on est payé au mètre cube. Alors pourquoi ? Parce que quand t'as une super forêt plate avec des gros arbres, tu peux gagner 300, voire 600 euros quand ça bastonne. En Allemagne, on faisait des journées à 600 euros, quoi. Et parce que c'est des forêts plates, quoi. Il n'y a pas de souci, les arbres font tous 4 mètres cubes. Bon. Et alors, pourquoi quand tu te tapes un travail comme ça, sinon t'es poussé à aller toujours vers les forêts faciles, qui sont souvent il y a des gens qui ont les moyens, et ils peuvent payer tout ça. Et alors, est-ce que c'est ça qu'on recherche ? On en a parlé hier à La Réunion. Est-ce que ces forêts-là, on les condamne à être travaillées d'une manière qui ne nous convient pas ? Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Si l'animal ne vient pas, si tout ça, on va devoir travailler plus brutalement. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est obligatoire. Est-ce qu'on veut que ces forêts-là soient donc délaissées parce que c'est trop dur, on ne fait que le facile ? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense qu'on doit être capable d'intervenir dans des situations difficiles avec les animaux, mais il faut essayer d'exiger un tarif qui correspond à une réalité, quoi.
C'était Viabilité économique et respect de l'écosystème, la 10e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Pour savoir plus sur le réseau pour les alternatives forestières, vous pouvez consulter le site suivant www.reseau-relié.org où il faut chercher la page forêt. Vous pourrez y trouver ces publications, les comptes rendus des rencontres du réseau, ainsi qu'à sa charte qui définit ses objectifs et son approche aux activités forestières. Il est également possible d'écouter ou télécharger les 9 émissions déjà réalisées dans la série « Entre cimes et racines ».